Et c'est maintenant l'heure du débat des grandes voix. Sébastien Krebs avec vous ce soir. Judith Ventrob, grand reporter au Figaro Magazine, Gérard Carrérou et Mickaël Darmon.
Bonsoir à tous les trois.
Bonsoir.
Bonsoir.
Et bienvenue. Vous avez évidemment tous votre mot à dire. Comme chaque soir, on vous attend au 39-21 pour échanger avec les grandes voix. Ça y est, il va donc parler dans une heure et demie maintenant. Mais pour dire quoi, les vœux d'Emmanuel Macron dans ce contexte explosif, on va évidemment en parler. D'abord, Carlos Ghosn, ce coup de théâtre. Hier soir, l'ancien patron de Renault-Nissan qui quitte le Japon au nez et à la barbe des autorités nippones pour se réfugier au Liban, qui ne le renverra probablement pas dans l'autre sens. Est-ce que, comme Gérard Longuet qui le disait à l'instant, vous dites aussi que finalement ce système japonais n'était pas équitable?
Oui, ah oui, je suis d'accord. Oui.
Gérard Carrérou.
Je suis même, je veux dire la vérité, quand j'ai entendu ça ce matin sur Europe 1, très tôt, je me suis dit, ben voilà une très bonne chose. Il a bien fait, il a bien fait. Si j'avais été à sa place et que j'avais eu les moyens d'avoir un avion spécial ou je ne sais exactement comment ça s'est passé, je l'aurais fait. Parce que c'est incroyable la façon dont le pays, le Japon en l'occurrence, l'a traité. On a l'impression effectivement de revenir au Moyen-Âge, à la torture médiévale, pour un homme dont on a pour l'instant encore pas encore prouvé la culpabilité. Il a sans doute commis quelques malversations, et encore. Mais en tout cas, il n'a pas été jugé, et il est déjà torturé. On l'empêche de voir sa femme, ses proches, il est assigné à résidence, on lui a piqué ses passeports, enfin bon, toutes choses qui font que c'est un système inique, et que d'une certaine manière, je suis très satisfait de voir qu'il a pu en échapper.
Judith Ventrob.
Je partage assez l'avis de Gérard. C'est pas tellement l'assignation à résidence, c'est tout ce qui s'est produit avant, pendant sa très très longue détention préventive, dans des conditions qui, moi, me semblent tout à fait incompatibles avec le respect des droits de l'individu. Je pense à la lumière allumée jour et nuit, à l'absence totale de contact, au froid, parce qu'apparemment, sa cellule n'était pas du tout chauffée. Coupable ou pas coupable, ça, contrairement à Gérard, je ne me prononcerai pas. Mais quoi qu'il en soit, cette façon de contraindre les gens à avouer en leur infligeant des conditions de détention, je le répète, pas compatible avec ce que nous considérons.
Mais est-ce qu'on ne doit pas rendre compte de ces délits dans le pays où on les a commis?
Mais ça n'a aucun rapport. Moi, je parle des conditions de détention au Japon. Par ailleurs, je trouve qu'elle contraste singulièrement à quoi ça sert d'avoir été tellement rigoureux dans la détention préventive et tellement léger au point qu'il ait pu s'échapper. Alors ça, c'est quand même, je ne sais pas s'il y a des gens qui vont se faire harakiri là-bas, mais ça interpelle.
Ça pose question. Mickaël Darmon.
Oui, alors c'est vrai que tout cela est assez rocambolesque. D'ailleurs, c'est au fond ce qu'on va retenir très certainement maintenant de ce dossier. Hein. C'est la manière dont il a pu s'échapper. Je crois que l'enquête, effectivement, ne fera que commencer. Bien évidemment, ça n'a pu être fait sans quelque complicité, ou au moins quelques indulgences. Donc, de ce point de vue-là...
Quelques moyens aussi, probablement.
Et forcément des moyens. Bon, Carlos Ghosn, on le sait, et d'ailleurs c'est peut-être la source de ses problèmes, a des moyens. Il les a même souvent beaucoup utilisés. Donc globalement, on sait qu'il pouvait mettre en place un grand plan d'évasion. C'est fait. Ça ouvre un chapitre assez nouveau et même, je dirais, un peu romanesque hein, dans ce dossier. Maintenant, la seule chose qui compte maintenant, c'est quand va-t-il parler, que va-t-il dire et dans quelle mesure la manière dont il va parler va faire changer ou pas la perception de cette affaire.
Mais que peut-il
dire ? On a bien compris, ça j'en sais rien, je ne suis pas spécialiste de dossier, je vous le dirai sans embâge. En revanche, ce que l'on comprend bien, sans être un grand spécialiste, c'est qu'on est quand même au cœur d'une affaire industrielle majeure, dans des moments, dans une période où, bien sûr, les enjeux, les rapprochements, les défis liés à la construction automobile sont en train de bouleverser les économies entières. Et il est clair que tout cela n'est pas lié uniquement à des peut-être supposées, et on verra, avérées peut-être, malversations ou utilisations un peu comme ça légères de son argent. On sent bien qu'il y a eu quand même une très forte déstabilisation d'une alliance industrielle et politique majeure. Et cela, très certainement, va-t-il avoir à cœur de pouvoir faire avancer le dossier?
Le Liban a toujours assumé de l'appuyer énormément, qui t'a envoyé des émissaires.
Il est libanais à moitié, il est libanais.
Il est aussi français.
C'est son pays
la France, on sent la France beaucoup plus embarrassée par cette affaire.
Ah oui, c'est le moins qu'on puisse dire. Moi, j'ai été surpris dans les derniers mois quand même. Quand je me souviens plus des noms, mais il y a eu un certain nombre de cas où on a vu des présidents de la République, je ne parle pas d'années très anciennes, un certain nombre de présidents de la République se mobiliser l'appareil d'État pour aller chercher des gens qui étaient accusés de crimes graves, comme détention d'otages, trafic de drogue et détention d'otages, etc. On en a fait quasiment presque des martyrs à l'étranger. Et là, profil bas absolu, il y a eu deux personnes, à ma connaissance, qui se sont mouillées pour aller voir Carlos Ghosn. C'est l'ancien président Sarkozy et c'est l'actuel commissaire européen et ancien ministre Thierry Breton. Les autres, alors vraiment, ont fait preuve de « Oh, je ne le connais pas ». Enfin, comme si cet homme qui a quand même... Enfin, n'oublions quand même pas qu'il a redressé Renault, que des milliers de travailleurs, des dizaines de milliers de travailleurs lui doivent leur job, même s'il a fait après et dans le cadre de ses fonctions des choses qui méritent d'être jugées, je pense que quand même on aurait pu s'occuper davantage de son sort.
Est-ce qu'il faut qu'il soit jugé ailleurs qu'au Japon, Judith Vintraube ?
Je ne vois pas comment ce serait possible. Alors, vous allez me dire, à partir du moment où il s'est échappé, tout le reste n'est que diplomatie. Mais normalement, c'est au Japon qu'il a commis les actes qui lui sont reprochés, c'est au Japon de le juger. Nos relations avec le Japon sont telles qu'on ne peut pas décider que la justice japonaise n'est pas digne de juger.
Le gouvernement dit aujourd'hui Carlos Ghosn n'est pas au-dessus des lois, personne ne doit s'exonérer de la bonne application de la loi, dit Christophe Castaner ce soir. Il y a quand même ce discours, il ne faut pas apparaître peut-être comme pour défendant un puissant.
Oui, bah, il le dit d'autant plus facilement qu'il est au Liban et qu'il ne sera pas inquiété et que la France n'aura pas peut-être à s'occuper de ce dossier. Donc le propos est facile et bon à loi. En revanche, ce que je constate quand même depuis quelques jours, c'est à quel point Renault a beaucoup communiqué sur son retour au Japon, sur la manière dont les liens se sont tissés à nouveau. Il y a eu beaucoup d'articles de presse qui ont été consacrés à la réconciliation entre Renault et Nissan. Ça vient, on va dire, dans une période post donc Carlos Ghosn. Je pense que l'aventure industrielle continue et très certainement, il aura donc envie, Carlos Ghosn, d'expliquer dans quelle mesure tout cela participe des évolutions, je disais, hein, économiques, géopolitiques, qui se nouent à travers les évolutions du marché automobile.
Et sa parole sera scrutée, évidemment, puisqu'il a déjà annoncé qu'il s'exprimerait dans les médias depuis Beyrouth dans les jours qui viennent, probablement. Mathieu est avec nous au 39-21. Bonsoir Mathieu.
Bonsoir Sébastien, bonsoir les grandes voix.
Merci
bonsoir.
De nous rejoindre bonsoir. Ce soir. Qu'est-ce que vous pensez de tout ça? Vous êtes choqué, vous, par cette fuite de Carlos Ghosn?
Tout d'abord, quelle histoire? C'est rocambolesque, ça va inspirer un réalisateur ou un scénariste.
C'est possible.
C'est obligé. C'est obligé. Écoutez, ma position, j'ai envie de faire un peu de Macron du en même temps. Ne pas se soustraire à la justice, forcément, alimente la petite musique que l'on entend partout, comme quoi les élites sont ou se croient au-dessus des lois. Ça, c'est certain. Donc, par essence, j'aurais tendance à être choqué. Mais en même temps, et là, il y a un gros « en même temps », référence à notre président, quand on voit quand même la manière dont ça s'est passé, la chute, comment elle a été subie rapidement, la théorie selon laquelle il y a quand même peut-être derrière un coup monté, ou du moins des rivalités intestines entre Renault et Nissan qui ont causé sa chute, ce risque-là n'est pas négligeable. Et je pense qu'un grand capitaine d'industrie comme Carlos Ghosn n'est pas un idiot. C'est quelque chose dont il a réfléchi. Il n'a pas agi comme ça brutalement par instinct. Et je pense qu'il sait ce qu'il fait et peut-être qu'il voulait éviter un jugement partial avec un tribunal qui ressemblerait plus à un règlement de compte. Donc ma position est nuancée.
Un petit peu partagé, on l'entend. Il était condamné d'avance, Carlos Ghosn, s'il restait au Japon, vous pensez ?
Oh oui, 99, c'est pas moi qui le dis, c'est ce que disent les spécialistes. Il avait toute chance, 98% des gens qui sont poursuivis. C'est un peu le système à l'américaine. Quand on poursuit une affaire jusqu'au bout, c'est que le procureur sait qu'il va pouvoir faire condamner. S'il sait qu'il ne pourra pas faire condamner, il lâche le dossier. C'est le système américain, c'est la traduction japonaise du système, du même système. C'est-à-dire que donc il avait toute chance d'être condamné à 15 ans de prison, 20 ans de prison, dans les conditions dans lesquelles on détient les gens au Japon, c'était effectivement terrible.
Bonsoir Richard.
Oui, bonsoir.
Bienvenue
bonsoir,
sur Europe 1.
Oui, bonsoir.
Merci d'avoir composé le 39-21.
Je vous en prie. Donc voilà, si vous voulez, pour l'affaire Carlos Ghosn, moi personnellement, j'ai un avis dès le départ de l'affaire. En réalité, lorsque cette affaire s'est présentée au mois de décembre 2018, je crois, j'ai été très, très touché par le fait que la France et le MEDEF n'avaient pas soutenu dans la forme, si vous voulez, le capitaine d'industrie qu'est Carlos Ghosn. Et ça, je trouve que c'est regrettable. Ensuite, si vous voulez, je me suis permis, lors d'une réunion, d'aller voir mon sénateur de la ville d'Angers, M. Chapuis, pour lui demander d'intervenir auprès de l'organisation qui pouvait s'occuper de ça, pour demander à ce que Carlos Ghosn soit quand même traité d'une autre façon que celle qu'il a été traité pendant de nombreuses années. Et ça, je trouve que là, maintenant, la presse se fait un chou gras de développer, si vous voulez, maintenant, toute l'affaire avec toutes les questions qu'on peut poser, savoir si comment est-il parti, comment est-il rentré, etc. Mais ce n'est pas du tout ce que la presse a fait lorsqu'il a été kidnappé, si vous voulez, au Japon, et sans aucune comment dirais-je, diffusion médiatique ni rien. Et ça, je trouve que c'est regrettable.
Vous avez aussi été choqué, vous aussi, donc, par ces conditions de détention. On l'entend. Juste une dernière question, les grandes voix, après on va passer à l'autre sujet, mais est-ce que finalement ça ne donne pas encore cette image que les puissances de l'argent finissent toujours par s'en sortir et à échapper à la justice?
Bah non, tout ce qu'on raconte, c'est le contraire. C'est que Carlos Ghosn, malgré les éminents services rendus à l'industrie nationale, a été proprement lâché.
En l'occurrence, c'est pas la France qui l'a sauvé, mais il a réussi à trouver des gens pour l'aider.
Ça a été proprement lâché par tout le monde en France. Et Gérard le rappelait à juste titre, à part Sarkozy et Breton, personne ne lui avait exprimé le moindre soutien.
Je crois qu'il n'y a pas d'accès à l'égalité pour la vicissitude. En réalité, ce n'est pas une question d'argent, c'est une question tout simplement, une fois de plus, d'enjeux politiques et industriels. Carlos Ghosn, on sait là où il est au sommet d'une industrie extrêmement puissante. C'est bien le moins qu'il soit capable de pouvoir se défendre avec ses moyens. Je pense que la question n'est pas là. La question, c'est qu'est-ce qu'il y a derrière? Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi? Au nom de quelle rivalité, comme on vient de l'entendre? Au nom de quels intérêts? Pourquoi, à un moment donné, est-il été gênant? Pourquoi un dossier aurait-il été monté pour pouvoir donc le sortir, le déstabiliser, peut-être déstabiliser toute une alliance, toute une manière de concevoir les marchés automobiles? Vous savez, ce sont des enjeux aujourd'hui qui agitent toutes les grandes puissances avec les enjeux de la mutation du marché, la voiture autonome, de tout ce que l'on sait. Donc il est peut-être un maillon d'une immense histoire, mais il va commencer maintenant à l'alimenter, c'est ça qui est bien.
Et on suivra donc sa parole lorsqu'il prendra la parole depuis Beyrouth. Je remercie Mathieu et Richard qui ont participé au débat ce soir. Les grandes voix jusqu'à 19h sur Europe 1. On parle d'Emmanuel Macron et de ses vœux dans un instant.
Votre grand journal du soir, c'est jusqu'à 20h30 sur Europe 1 avec Sébastien Krebs. Il est 18h47, la suite du débat des grandes voix dans votre grand journal du soir sur Europe 1. À vos côtés, Sébastien Krebs, on retrouve Gérard Carrérou, Michael Darmon et Judith Vintraube, de grands reporters au Figaro Magazine.
Emmanuel Macron va prononcer ses vœux, comme chaque 31 décembre, mais cette fois c'est après 27 jours de grève et un blocage total face à un front uni des syndicats, tous opposés, en tout cas en l'état, à sa réforme des retraites. On suivra tout à l'heure ses vœux en direct, 20h-20h30, édition spéciale. Que peut-il dire, Michael Darmon? Je crois que ça y est, vous avez quelques informations. Il a déjà enregistré son intervention?
Oui, il a terminé il y a quelques minutes, vers aux alentours 18h20. Donc, effectivement, d'enregistrer cette allocution traditionnelle des vœux. Comme l'année dernière, apparemment, il est debout. On avait été surpris un petit peu l'année dernière de le voir comme ça au cœur de l'affaire des Gilets jaunes. Il voulait montrer qu'il était en pleine forme. Là, c'est un petit peu ce que, autour du président, on continue à souligner. Il est allant, il va vouloir donc convaincre donc les Français du bien fondé de sa réforme. Il y a une formule qui pourrait faire florès apparemment, où il va évoquer la nouvelle décennie française. Avec tout ce que ça signifie, il va certainement mettre un peu de contenu dans cette formule. Bien évidemment, apparemment, les retraites sont au cœur de son intervention, qui va durer une quinzaine de minutes, avec également un mot pour le Premier ministre, le chef du gouvernement, Édouard Philippe. C'est-à-dire que cette fois-ci, contrairement à la tradition, où quand le président s'exprime, au fond, il est le seul. Là, il va être un peu accompagné, peut-être virtuellement, par Édouard Philippe, comme si... il fallait maintenant un paratonnerre à Jupiter.
Alors, les retraites, au cœur évidemment de cette intervention, c'est ce qu'on surveillera. Bien sûr, Judith Vintraube, que peut-il dire dans ce conflit?
Alors, déjà, je remarque que les différentes corporations sont en train de monter la pression en attendant ses voeux. Vous avez les policiers qui semblaient avoir accepté les concessions qu'avait faites leur ministre, Christophe Castaner, qui commence à dire « Mais puisque Emmanuel Macron a dit à Abidjan que les militaires, c'était pas pareil, qu'ils avaient des pensions, que les gendarmes sont des militaires, pourquoi nous serions traités différemment des gendarmes ?» Donc les policiers ont prévu de se réunir le 6 en intersyndical et de réfléchir à faire repartir leur mouvement de protestation. Vous avez une grève dure qui est annoncée par les avocats, qui craignent beaucoup qu'on leur pique leur réserve, puisque leur régime est excédentaire, régime autonome. Pareil, le 6, la CGT qui annonce qu'elle veut bloquer des installations pétrolières pour plusieurs jours. Donc on sent une pression qui monte. Alors face à ça, que peut dire Emmanuel Macron? C'est très compliqué parce qu'il doit gérer des ennuis quotidiens des franciliens notamment, et peut-être de tout le pays, si les menaces de bloquer les raffineries se concrétisent, tout en prenant une certaine hauteur, être à la fois proche des préoccupations des Français et pas les mains dans le cambouis, puisque là, c'est le rôle d'Édouard Philippe. Il doit aussi être ouvert vis-à-vis des syndicats, et singulièrement vis-à-vis des syndicats gestionnaires, je pense à la CFDT et à l'UNSA, qui eux ont un point dur qui est l'âge pivot, mais ne doit pas non plus déjuger Édouard Philippe, qui est à la manœuvre, qui est face à lui. Donc l'exercice est extrêmement compliqué. Il doit aussi donner des perspectives pour l'année qui s'ouvre. Ça, c'est le côté traditionnel des vœux, hein, bilan et prospective. Mais là, il y a le mur des retraites qui est devant lui et qu'il aura beaucoup de mal à surmonter, sauf à paraître tenir un discours de la méthode, lénifiant, qui risquerait d'aviver plutôt les tensions très vives.
Gérard Carrérou, exercice d'équilibriste.
Oui,
donc,
comme dit Judith, c'est très difficile. C'est très difficile. Alors, comme c'est très difficile, je me suis dit, au fond, je vais essayer de me mettre une seconde dans la tête, c'est presque lèse-majesté, mais enfin, je vais me mettre dans la tête d'Emmanuel Macron et je vais faire du Macron.
Alors, qu'est-ce que vous diriez?
Et je me dirais, bon, je vais reculer tout en ne reculant pas. C'est-à-dire, ça veut dire deux points. Un, je fais une défense vibrante de ma réforme du système à points en insistant sur tous les avantages de ce système pour les agriculteurs, ceux qui avaient des petites retraites, qui auront 1000 euros dans quelques années, les femmes qui étaient lésées, ceux qui avaient eu des carrières intermittentes, etc. Je mets le paquet pour dire, voyez, pour tout cela, c'est une vraie, très bonne réforme. Ça, c'est le côté positif. Et puis, en même temps, je prépare mon recul. J'ai déjà commencé mon recul, puisque d'ores et déjà, il y a une vingtaine de professions qui auront des régimes dérogatoires. Il n'y aura plus de régimes spéciaux, mais il y a déjà esquissé une vingtaine de régimes dérogatoires. On pourrait les récapituler, on les a déjà cités ici. Et par contre, deuxième partie de ma reculade, que j'essaye quand même de camoufler un petit peu, je dis, quant à ce qui est l'âge pivot, eh bien, il faudra véritablement qu'on puisse écouter toutes les propositions, faire une immense table ronde dans 6 mois, dans 1 an. Après tout, Après tout, on n'est pas en banqueroute, rien ne presse, il faudra le faire avec tout le monde. Et dans ce cas-là, je mets dans ma poche la CFDT qui revient, puisque c'est ce que voulait Laurent Berger, l'UNSA qui est bien présente dans ces grèves, etc. Et je camoufle un petit peu le recul. Et s'il ne fait pas ça, c'est-à-dire cette stratégie en deux temps, premier temps, je confirme ma réforme, deux, je recule sur l'âge, eh bien je pense qu'on est parti pour des grèves qui peuvent durer aussi bien quasiment jusqu'aux élections municipales.
Sauf qu'il ne veut pas mettre les mains dans le cambouis et que là, vous allez presque dans le détail de la réforme. Michael Darmon, il peut aller jusque-là? Un recul sur le fameux âge pivot de 64 ans, c'est possible ce soir?
Non, je crois qu'il ne faut pas ce soir s'attendre à des annonces techniques qui feraient dévier effectivement ce message traditionnel du président de la République qui s'adresse aux Français le soir du 31 décembre. En revanche, l'enjeu est fondamental. Il sait très bien, et tout le monde autour de lui le sait très bien, qu'avec cette réforme des retraites, en fait, il joue tout son quinquennat. Il joue la capacité de redressement du pays. Il joue sa capacité non pas à réformer, parce qu'un gouvernement peut réformer même au forcing, même au forceps, il n'y a aucun problème. Il a la majorité pour cela. L'enjeu pour lui est d'être capable de rassembler autour des réformes qu'il fait passer. C'est ça son enjeu. Et cette bascule qui existe avec le passage en 2020 vers un scrutin donc municipal au printemps qui va être forcément marqué par ce que nous vivons actuellement, bien évidemment, c'est ce qu'il aura en tête. Parce qu'à partir de maintenant, tout ce qu'il va faire sera à l'aune de ce conflit. Gérard le disait, très certainement, ça va durer longtemps. Je croisais hier un élu parisien qui me disait, de toute façon, la campagne municipale à Paris, elle est à l'aune des retraites. Donc on voit bien déjà à quel point toute l'ambiance politique est changée. Et bien évidemment, ce soir, il joue également cette capacité à pouvoir régénérer cette capacité qu'il peut avoir de rassembler autour de son projet.
Francis est avec nous au 39-21. Bonsoir Francis.
Bonsoir Sébastien, bonsoir les Grandes Voix.
Bonsoir. Merci de nous rejoindre. Vous allez regarder les vœux ce soir?
Peut-être, je ne sais pas. Enfin, c'est un exercice de communication politique qui n'a à mon avis, pas beaucoup d'intérêt. C'est pas ce soir que vont se prendre les décisions. Vous parlez beaucoup de la réforme des retraites. Il y a eu auparavant la réforme de l'assurance chômage qui a déjà créé beaucoup, beaucoup de mécontentement. Il y a eu un début de quinquennat avec la réforme de l'ISF avancée d'un an pour faire plaisir à ceux qui avaient financé sa campagne puisqu'ils n'avaient pas de parti. Je le rappelle, d'ailleurs, vous parlez des élections municipales. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de villes où LREM n'est pas présent. Alors, ils apportent leur soutien, par exemple, ici à Nancy, ils apportent leur soutien aux maires sortants, histoire de dire qu'ils sont présents, mais ils ne sont pas présents. Et il a un parti qui est fait de briques et de brocs, qui n'existait pas au moment de l'élection présidentielle et qui est fait essentiellement à partir de trahisons, de gens qui ont quitté d'autres partis pour sauter dans le train En Marche. Et il est coincé entre les institutions européennes, les institutions mondiales type OMC, avec les accords commerciaux, etc. Donc, en fait, je ne vais pas dire que c'est les vœux d'une marionnette d'un système, mais on n'en est pas très loin. Donc, n'attendez pas grand-chose d'autre que de la com, toujours de la com, encore de la com ce soir.
Et vous êtes convaincu par cette réforme des retraites ?
Absolument pas. Comme l'a dit, je crois, Gérard tout à l'heure, on remplace des régimes spéciaux par des régimes dérogatoires. Si les régimes spéciaux existent, c'est qu'ils ont des raisons d'exister. Donc on aurait dû prendre régime par régime, regarder quelle était sa vraie raison d'être, et puis peut-être y aller régime par régime. Là, ce serait passé beaucoup plus facilement, mais mettez-vous ce soir à la place d'un enseignant, mettez-vous ce soir à la place d'un jeune, mettez-vous ce soir à la place d'un chômeur avec la réforme de l'assurance chômage, etc. De toute façon, c'est pas des vœux qui vont changer quoi que ce soit. Puis vous savez, moi je viens de la campagne vosgienne. Dans la campagne vosgienne, on dit qu'il ne faut jamais présenter ses vœux avant minuit.
Ah, bon, alors là, c'est tous les présidents l'ont fait avant lui, là pour le coup.
Voilà, voilà. Et bien, ça leur a porté chance depuis quand même quelques élections, hein, puisque ils ont tous été dégagés, puisqu'on a fait preuve de dégagisme. Voilà,
merci beaucoup, Francis.
Une bonne fin d'année.
Merci à vous aussi. Merci beaucoup, Francis. Un dernier mot très rapide. Il peut encore convaincre les Français de sa réforme, Emmanuel Macron, ou c'est déjà trop tard?
Le point d'accord que j'aurai avec Francis, c'est que ses voeux ne bouleverseront pas la donne, ça c'est à peu près sûr.
Oui, l'opinion, et je pense que l'opinion n'est pas prête de rebasculer.
Michael Darmon ?
C'est, une fois de plus, c'est au cœur de son défi aujourd'hui. Et ça fait 2 ans qu'il est en crise. L'année dernière, c'était les Gilets jaunes. Cette fois-ci, ce sont les syndicats. Mmh. La contestation sociale est revenue d'une manière, on va dire, plus classique entre les mains des syndicats. Mais il n'empêche que sa volonté de bouleversement et de transformation du pays se heurte aujourd'hui à une forme même, peut-être, d'impréparation.
Les vœux, dans une heure, vous les suivrez en direct sur Europe 1 édition spéciale jusqu'à 20h30. On les commentera et on écoutera les toutes premières réactions tout à l'heure en direct. Merci beaucoup, les grandes voix, Judith Vintraume du Figaro Magazine, Gérard Carrérou et Mickaël Darmon. Belle fin d'année à vous trois.
À vous aussi.
Merci.
Europe 1. À suivre, Sébastien
Le retour de l'info dans un instant, le journal de 19h de Thierry Dagiral.
Vous écoutez votre grand journal du soir jusqu'à 20h30 sur Europe 1.